Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. L'année dernière, nous avions reçu Jean-Charles Chourek, qui était venu dans l'émission Mémoire vive pour parler du colloque consacré à la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah, organisée à l'école des hautes études en sciences sociales. On se souvient que l'événement scientifique avait été malheureusement assombri par les perturbations de plusieurs dizaines d'individus se réclamant de l'église polonaise, venus interrompre les interventions des chercheurs, les insulter parfois, les traitant de menteurs souvent. Des propos antisémites furent prononcés. Un magazine polonais nationaliste évoqua par exemple un sabbat anti-polonais. Ce colloque, perturbé en février dernier, est désormais un livre. Et là, on oublie évidemment ces perturbations politiques. Les Polonais, et on revient à la recherche historique à proprement parler, c'est désormais un livre, Les Polonais et la Shoah, paru aux éditions du CNRS, avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il figure une vingtaine d'articles passionnants qui reviennent sur l'historiographie polonaise, mais aussi sur l'état de la mémoire polonaise de la Shoah aujourd'hui. Alors, parmi ces articles, l'un d'entre eux est particulièrement éloquent sur ces questions de mémoire de la Shoah en Pologne, puisqu'il étudie l'enseignement de l'histoire de la Shoah donnée en Pologne, donc aux écoliers et aux lycéens, depuis la réforme de l'éducation de 2017. On le doit à Eva Tartakovsky, qui nous fait le plaisir d'être présente avec nous aujourd'hui. Bonjour Eva Tartakovsky.
Bonjour.
Alors, nous allons revenir avec vous sur ce qui est transmis de la Shoah aux écoliers et lycéens polonais, aujourd'hui même en vérité, hein, donc depuis 2017, aujourd'hui même, une réforme qui date qui est due au changement de pouvoir quelques années plus tôt en Pologne. Mais évidemment, ce qui est passionnant dans votre article, c'est qu'on voit l'histoire de la pédagogie des programmes depuis l'après-guerre. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de cet enseignement en Pologne en pensant à tout de suite qu'est-ce qui se dit dans l'après-guerre ? Il y a une idée, évidemment, qui prévaut, hein, qui est peut-être un peu teinté de préjugés parfois, c'est ce dont je me suis rendu compte en tout cas en vous disant, c'est le fait que la destruction des Juifs, elle était fondamentalement occultée en Pologne au profit d'un récit martyrologique, héroïsant, qui fait de la société polonaise dans son ensemble, de manière homogène, le seul acteur. Et là, je voudrais juste, avant de vous donner la parole, citer Jan Gross, qui fait le premier chapitre des Polonais la Shoah, et qui dans le texte qu'il avait lu au Collège de France au moment de ce colloque perturbé que j'évoquais dans l'introduction, au début de l'introduction, donc dans l'itinéraire d'un historien de la Shoah en Pologne, ça plante vraiment le décor. Il écrit « Rien de ce que j'ai écrit dans ma thèse, La société polonaise sous l'occupation allemande, publiée il y a 40 ans, donc il y a 40 ans, en 1900, dans les années 80, ne me fait rougir aujourd'hui. Ce qui me fait rougir, c'est ce que j'ai omis d'écrire. Il n'y a rien dans le livre, pour être exact, une page et demie en tout, au sujet des Juifs. Et je n'avais même pas l'impression de passer à côté de quoi que ce soit, puisque le standard historique de l'époque consistait à laisser de côté tout ce qui concernait les Juifs. » Et là, on parle d'un grand historien, évidemment, de la Pologne et de la Shoah. Alors, qu'est-ce qu'il en était des programmes scolaires pour les écoliers, les collégiens, les lycéens? Comment était racontée la guerre après la guerre, justement?
Oui. Alors, j'ai été moi-même surprise, puisque en commençant, mon projet de recherche porte sur l'enseignement de l'histoire des Juifs après 89. Et je me suis rendu compte que très souvent, on disait que la Shoah était introduite en 99. Je me suis dit, bon... Dans les programmes scolaires. J'ai repris ça dans un premier temps, puisqu'il s'agissait des propos des chercheurs polonais et français, d'ailleurs. Mais je me suis posé la question, comment c'était présenté avant? Et je suis remontée comme ça au premier programme de 47. Alors, il se termine avant la guerre. Le premier programme qui mentionne effectivement la Shoah, alors elle n'est pas mentionnée en tant que Shoah ou l'Holocauste, puisque ces termes n'étaient pas encore d'usage. Effectivement, on parlait de la destruction des Juifs, date de 1948. Mmh. Et effectivement, déjà à cette période, on mentionnait ça. Alors, là où vous avez aussi très bien mentionné cette notion de martyrologie et de l'héroïsation de la société polonaise, puisque cette destruction des Juifs, l'existence des ghettos, existait dans un dispositif narratif qui était effectivement martyrilisant et héroïsant la société polonaise dans son ensemble.
Il faut peut-être rappeler que 48, 47, 48, 49, effectivement, vous dites la thématique liée à la Shoah, elle est clairement présente dans des programmes scolaires
pour
l'école de 11 ans en 49, donc dans ces années-là. C'est-à-dire que c'est une époque, on ne peut pas parler d'histoire, c'est presque l'actualité, c'était hier, c'était il y a quelques années, et que c'est un moment où les programmes sont écrits, où il y a encore... Il y a des pogroms. Ce qui reste de la communauté juive polonaise, que ce soit ceux qui étaient sur le terrain polonais et ceux qui sont arrivés de Russie, sont encore là, beaucoup partent. Mmh. On continue vaguement encore à se poser la question si une communauté juive polonaise, bon, on sait qu'en 1950, c'est terminé, les trois quarts sont partis. Donc c'est un moment très particulier historiquement, et le fait que ce soit mentionné est éloquent.
Tout à fait, mais il faut mentionner également, comme le montre d'ailleurs Annette Wiewiórka, que très tôt se met en place l'Institut historique juif, qui ne porte pas encore cette appellation-là, mais qui commence tout de suite l'archivage, l'archive en fait de la mémoire. Alors, ça ne veut
pas dire... c'est à usage interne, c'est en yiddish souvent.
Alors, effectivement, on ne peut pas parler d'une diffusion globale au sein de toute la société polonaise. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi mentionner que, par exemple, le monument aux héros de l'insurrection du ghetto de Varsovie date, le grand monument, puisqu'il y avait un premier érigé il y a quelques temps auparavant, date aussi de 1948. Donc, à la fois, il y a une sorte d'occultation dans cette diffusion de l'histoire de la Shoah. N'oublions pas non plus que ce paradigme qui met au centre de la Seconde Guerre mondiale la Shoah est aussi assez récent dans d'autres pays. Je veux dire, la Pologne, dans ce cadre-là, n'est pas la seule à ne pas considérer les Juifs comme un acteur central parmi les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Je précise quand même, puisque je pense qu'on va aussi avoir l'occasion d'y revenir, que évidemment, ce n'est pas parce que dans un programme on mentionne la destruction des Juifs, l'existence des ghettos, que ça se transpose ensuite dans les manuels, que je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, puisque je travaille sur une période qui date depuis 89 et pas depuis 48. Rien n'empêche que ça puisse continuer ensuite. Et qu'ensuite, ça se transpose dans l'enseignement, dans l'intimité de la classe. C'est-à-dire, effectivement, là où Yann Gross a raison, c'est que ce n'est pas parce que ça existait quelque part que ça pénétrait, on va dire, la mémoire collective, pour utiliser ce terme, de la société polonaise.
D'accord. Mais
formellement, ça existe.
Formellement, ça existe. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce moment, disons, 45-50, où il y a encore une communauté juive polonaise qui cherche à se structurer avant que ce soit que le rideau tombe en 1950, en fait, met une pression sur la société dans son ensemble malgré tout, et que c'est vraiment une bulle de temps, enfin, c'est une séquence isolable du reste?
Je ne crois pas, parce qu'en fait, depuis 1948, dans tous les programmes, en tout cas scolaires, la destruction des Juifs apparaît systématiquement.
Ah, pardon. D'accord. Donc elle est mentionnée dans les programmes des années 50.
Elle est mentionnée dans les années 50, d'accord, dans les années 70. Et évidemment, dans les années 80. Ce qui est paradoxal, c'est que ça disparaît dans les premiers programmes après la transformation politique. C'est-à-dire, on est dans 91, cette fois-ci, où, au lieu d'avoir un programme très détaillé, le gouvernement ou le ministère de l'Éducation va proposer ce qu'on a appelé un programme minimal, ou le programme minimum, minimum programme. Et là, effectivement, c'était des items mentionnés à minima, et là, on parle de la destruction et des camps de concentration. Mais judéité, le terme de la destruction des Juifs, le terme de ghetto, disparaissent à ce moment-là.
En quelle année exactement,
pardon ? En 91.
91.
Ce qui permet aussi, peut-être, d'avoir ce que j'ai appelé l'illusion historiographique, par rapport à l'introduction de l'Holocauste comme terme, et pour le coup, on ne parle pas de la destruction des Juifs ni du terme Shoah, mais de l'Holocauste, en 99, pardon, qui paraît, dans ce cadre-là, relativement nouveau, puisque avant, on n'en parlait pas dans le programme.
D'accord.
Mais on en parlait avant 89. Voilà.
Mais le fait, on va arriver très vite à notre époque, mais le fait qu'on en faisait mention, comme vous nous l'apprenez en vérité, il y a la question de la mention, c'est une chose, la question du récit qui en est donné et de sa place comme épisode au sein du récit plus vaste de la Pologne martyre, c'est autre chose, évidemment.
Tout à fait, effectivement, ça s'inscrit complètement dans un dispositif narratif, dans un ensemble narratif, qui est celui de la Pologne combattante, et donc l'insurrection du ghetto. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir de la Pologne populaire avait plutôt tendance à valoriser l'insurrection du ghetto, au détriment de l'insurrection de Varsovie, qui a eu lieu après.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Soviétiques qui se sont arrêtés au bord de la Vistule ont vu bombarder la ville par les Allemands et ne sont pas intervenus. Et donc, il y avait effectivement une volonté, en tout cas, d'effacer la mémoire de cet événement héroïque qui était l'insurrection de Varsovie. Mais en tout cas, formellement, ça existe. Et donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça se transpose dans l'intimité de la classe. Ça, c'est encore une différence.
Mais ça ne veut pas dire non plus que la singularité de l'événement, enfin, sa différence par rapport à la manière dont les Polonais ont pu être victimes de la guerre, est marquée.
Tout à fait,
Fait. Donc les deux étapes importantes, je suis en tout cas votre texte, moi j'ai retenu en 1981 comment le Conseil national de la section de l'éducation et de l'instruction de Solidarność publie des propositions qui m'ont paru intéressantes. Bon, après il y a ce moment 91-92, mais vous avez souligné tout à l'heure le paradoxe. Il y a 99 qui apparaît comme vraiment novateur, et là se met en place un désir de normalisation, on pourrait dire quelque chose comme ça, en tout cas que les canons des démocraties libérales deviennent aussi des normes pour la Pologne.
Tout à fait, tout à fait. D'une part, l'introduction déjà du terme qui est celui de l'Holocauste, c'est-à-dire celui qui est promu notamment par les pays anglo-saxons, alors que le terme de la destruction des Juifs, qui est d'ailleurs toujours utilisé par le centre d'études sur la destruction des Juifs, qui est ce centre appelé par les organisateurs du colloque comme la nouvelle école de l'histoire de la Shoah. Donc en fait, ils ont deux appellations, une en anglais qui reprend le terme de l'Holocauste et en polonais on continue à utiliser le terme de destruction. Donc avec un grand D pour effectivement signaler la spécificité de ce génocide. Donc effectivement, l'usage de l'Holocauste, on va dire, joue de fait une fonction d'intégration, se positionne comme une fonction d'intégration de la Pologne dans le sillage démocratique, de la lutte contre l'antisémitisme, etc. etc. Par ailleurs, n'oublions pas qu'il y a aussi un paradigme, pour le coup, historiographique dans la recherche, inspiré beaucoup des travaux psychanalytiques. En France, c'était Henri Rousseau qui parlait effectivement de cette période d'oubli, refoulement, retour du refoulé, qui aussi va un peu s'imposer. Et par conséquent, je pense que ça joue aussi objectivement, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que c'est consciemment pensé par ceux qui analysent ces programmes ou qui en parlent, mais qui s'impose de fait comme tel, comme s'il y avait une espèce de trajectoire avec cet oubli pendant la période de la République populaire. Ensuite, la période de Solidarność, qui effectivement formule toute une série de propositions. N'oublions pas non plus que dans les années 80, il y a la publication de ce fameux texte de Jan Błoński qui s'intitule « Pauvre Polonais regarde le ghetto », qui est le premier à avoir, peut-être pas parler de la co-responsabilité des Polonais non-juifs dans le génocide, mais en tout cas, il a mis en lumière ce silence, cette indifférence de la société polonaise face aux Juifs. Il y a la diffusion aussi, dans les années 80, du film Shoah, de Claude Lanzmann. Donc, tout ça...
qui provoque un scandale.
Et qui provoque, par ailleurs, évidemment, un scandale. D'ailleurs, il est censuré, c'est-à-dire il n'est pas diffusé dans son intégralité. Et du coup, ça crée une espèce de trajectoire logique qui aboutit à cette perspective transitionnelle où, enfin, on retrouve les valeurs démocratiques, la Pologne renoue avec l'Europe, etc., etc.
Et puis vient ce moment, donc, Droit et Justice, le parti, le PiS, pour reprendre l'acronyme polonais. Droit et Justice, qui existe depuis de nombreuses années, mais qui arrive au pouvoir en 2015, et qui, en fait, rompt cette trajectoire que vous venez de rappeler. Et ils sont au pouvoir depuis 2015. Et là, on va vraiment au cœur de votre étude, qui étudie les programmes écrit en 2017, deux ans après leur arrivée au pouvoir. Et moi, ce qui me frappe tout de suite, je vous laisse vraiment tout de suite la parole pour expliquer ce qui m'est apparu, enfin ce que j'ai compris comme étant une ambivalence fondamentale dans cette écriture de programme, parce que comme vous dites, il introduit la thématique de la mémoire et traite la Shoah dans un chapitre autonome, ce qui est pour la première fois est fait. Donc on pourrait dire qu'apparemment c'est un progrès, enfin en tout cas c'est quelque chose qui poursuit cette trajectoire que vous décriviez, mais vous parlez aussi d'une valorisation de la martyrologie et de l'héroïsme d'un polonais, c'est-à-dire d'un retour au vieux canon du récit de la doxa, quoi, de la légende, on pourrait dire. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2017 dans l'écriture de ces programmes ?
Alors, effectivement, je vais juste revenir un peu en amont, c'est-à-dire le gouvernement du PiS, il est considéré comme celui qui réellement met en œuvre une politique historique. En polonais, on ne parle pas de politique de mémoire, on parle d'une politique historique. Et il faut quand même mentionner aussi que le précédent gouvernement libéral menait aussi une politique historique. Si on
nommé comme tel aussi, historique ?
Alors, dans une moindre mesure. Mais effectivement, il y avait des initiatives qui visaient, par exemple, la valorisation d'une figure qui est devenue extrêmement populaire, surtout aujourd'hui, à savoir les soldats maudits, c'est-à-dire la résistance anticommuniste d'après la guerre, etc. etc. Mais ce que fait PiS, c'est qu'il la déploie à une échelle qui n'a jamais été connue jusqu'à maintenant. Alors, ça passe effectivement par l'école, mais ça passe également par exemple, l'instauration, la création des musées, la diffusion à une échelle absolument phénoménale, puisqu'il existe en Pologne l'Institut de la mémoire nationale, qui est une institution assez originale par rapport, en tout cas, à l'Europe occidentale, puisqu'il dispose des prérogatives de recherche, un pilier recherche, un pilier pédagogique, un pilier aussi juridique, puisqu'elle permet de poursuivre les crimes commis contre la nation polonaise. Donc c'est une institution hybride. Et depuis l'arrivée au pouvoir du PiS, cette institution a été dotée des moyens absolument phénoménaux. C'est une institution qui, par rapport aux autres université embauche le plus grand nombre d'historiens aujourd'hui au niveau de la recherche, mais qui diffuse aussi toute une série d'outils pédagogiques dans des écoles. Ce sont souvent des outils qui sont gratuits, des conférences, etc.
Mais est-ce qu'on peut vraiment employer ces mots innocemment recherche, historien dans ce cadre-là ? On peut pas dire d'emblée que c'est de la propagande ? Financé, d'État financé.
On peut effectivement se poser la question, sachant que cette institution, c'est une institution qui existe dans toutes les régions de la Pologne, et qui, depuis sa création, au début des années 2000, si ma mémoire est bonne, a fait aussi tout un travail historique valable d'un point de vue de la recherche. Alors, depuis l'arrivée du PiS au pouvoir, il y a eu des changements au niveau de la direction. Il y a eu aussi... certains historiens ont été écartés, en tout cas ceux qui ne correspondaient pas tout à fait à la ligne officielle, en tout cas, de cette
idéologique,
institution. Idéologique, tout à fait. Il y a toute une série, effectivement, aujourd'hui, de publications qui sont à caractère complètement idéologique. Ça c'est sûr et certain. En même temps, c'est une institution, comme chaque institution, il y a une sorte d'inertie aussi des institutions. Et sur le terrain, on observe par exemple qu'il y a certains pédagogues qui travaillent sur le terrain qui ne vont pas forcément partager la même sensibilité que la direction, qui est tout en haut, qui est à Varsovie, etc. etc. Alors, bon, les contraintes d'expression de ces divergences qui pèsent sur eux sont évidemment très, très lourdes.
Alors, la question fondamentale, c'est dans ce contexte que vous avez rappelé, comment redescend dans l'écriture des programmes en 2017 une histoire de la Shoah dans ce cadre-là ?
Qu'est-ce qui se passe dans les programmes ?
Dans le programme, c'est-à-dire dans les manuels.
Dans le programme.
On essaiera de rentrer dans les classes après.
On va voir dans les manuels et ensuite les classes. Ouais. Alors, effectivement, ce qui est une nouveauté, c'est que l'actuel programme consacre un chapitre entier à la Shoah. Et donc ça, c'est une nouveauté.
Nommé comme tel ?
Shoah. Alors, c'est un chapitre dédié à la Shoah. D'accord. Effectivement, il n'y a que la Shoah dans ce chapitre. Donc, on pourrait se dire, c'est formidable, c'est une avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, il faut aussi mentionner que c'est un programme, que ce soit pour le lycée ou pour l'école primaire, qui est extrêmement détaillé et extrêmement contraignant, du coup, pour les enseignants, puisque tout ce qui est dans le programme est censé être enseigné. Alors qu'avant, il y avait cette liberté plus ou moins grande par rapport à les intitulés, les items qui figuraient dans le programme.
Et c'est quel âge ?
Alors, l'école primaire, maintenant, en Pologne, c'est de l'âge de 7 ans à 14 ans.
Mais la Shoah est étudiée à
la
quel
Shoah,
âge?
Alors, la Shoah est, utilisée, est enseignée en tant que telle d'abord à 14 ans, ensuite à 18 ans, en terminale en fait,
d'accord.
Un peu comme en France. Voilà, en fait c'est une écriture circulaire, donc on apprend deux fois la même chose, d'abord dans l'équivalent du collège et ensuite au lycée. Voilà. Et donc, il y a même des enseignants qui disent « c'est formidable, enfin on peut parler de la Shoah sans tabou ». Ouais. Le problème, c'est que ce que propose ce chapitre, notamment, dans les classes du lycée, donc en terminale, est extrêmement problématique. Alors, on retrouve la thématique de la Shoah dans un autre chapitre encore, qui porte sur l'oppression des Allemands, puisque là aussi, il y a eu un glissement. On parlait avant des nazis, l'équivalent utilisé en Pologne, c'était les hitlériens. Maintenant, il s'agit de parler uniquement en termes d'Allemands. Ce n'est pas par hasard. On va effectivement mettre l'accent sur l'héroïsation des Polonais, notamment, qui sauvaient les Juifs. Alors, dans ce chapitre-là, avant de passer encore au chapitre consacré uniquement à la Shoah, on énumère deux personnages, à savoir Witold Pilecki, qui est l'un des soldats maudits, c'est-à-dire faisant partie de cette résistance anticommuniste, qui s'est fait interner volontairement à Auschwitz pour informer le monde sur ce qui se passe dedans.
Ça a été publié il y a quelques années en France, je crois.
Et traduit. Ça a été effectivement publié en France. Sachant que ce personnage, il est mentionné également dans le programme de la 4e en Pologne, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans. Et là, c'est encore plus édifiant, puisque, en fait, sur 6 manuels autorisés, il y a seulement 2 qui mentionnent, à cette occasion de Witold Pilecki, l'identité juive des victimes d'Auschwitz. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième, au sujet de ce chapitre dédié à la Shoah, je vais juste lire une micro-phrase pour montrer effectivement la place que cette héroïsation des Polonais, surtout sauvant les Juifs, prend dans le nouveau programme. Alors, l'élève, je cite, caractérise les postures de la société polonaise et de la société internationale vis-à-vis de l'Holocauste en prenant en compte les justes dont Irena Sendler, Antonina Janjabinsk, etc. Et caractérise l'activité du gouvernement de la République de Pologne vis-à-vis de la destruction en prenant en compte la mission de Jan Karski et le rôle de Jegota. C'est-à-dire qu'en fait, toute la recherche actuelle, portée notamment par le centre qu'on a évoqué avant, est complètement évincée. Et on ne parle même plus, comme dans l'ancien programme, celui qui a été voté en 2008, de la description des postures de la société polonaise vis-à-vis de l'Holocauste. Ce qui laissait de fait une possibilité de qualifier ces postures, qu'elles soient positives ou négatives, etc.
C'est-à-dire que tout l'apport de Jan Gross, de cette école polonaise, c'est comme si elle n'avait pas existé.
Voilà. Et donc, on insiste uniquement sur le fait que les Polonais, dans son ensemble, sauvaient les Juifs en Pologne. Ce qui est évidemment très problématique et qui se retrouve donc, puisqu'on a mentionné ça aussi, dans la transmission qui est faite en classe, dans la difficulté qu'ont les enseignants à transmettre une histoire un peu plus contradictoire, et par ailleurs dans les entretiens avec des élèves où effectivement, sur l'ensemble de l'ensemble de la cohorte d'élèves que j'ai pu interviewer, qui compte à peu près 200 élèves déjà, donc c'est un bon échantillon.
Oui, c'est bon, un bon échantillon.
Échantillon. On a eu que 2 qui ont mentionné effectivement un caractère un peu problématique de cette narration de l'histoire. Les autres adhèrent complètement, mais parce qu'ils sont aussi immergés dans un ensemble culturel qui n'est pas que celui de l'école, mais de la radio, d'Internet, etc.
Mais alors, vous dites ces problématiques, vous venez de dire pourquoi notamment, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais que vous insistiez, parce que ça m'a beaucoup frappé. C'est problématique aussi parce que la Shoah, il a son chapitre autonome. On pourrait croire que c'est... parce qu'on singularise l'événement, mais c'est aussi presque, vous dites, c'est présenté comme un événement qui est extérieur à l'histoire ethno-polonaise. Donc c'est une isolation, une autonomie qui est renversée, en fait. Et en fait, il y a vraiment l'idée qu'il y a les Juifs et nous, enfin, eux et nous, eux les Juifs et nous les Polonais, qu'il y a une séparation, on pense au livre de Solzhenitsyn, eux et nous, enfin, il y a quelque chose... Voilà, et ça, ça entérine cette vision séparatrice. Mmh.
Tout à fait. Et d'ailleurs, l'usage des termes polonais, les polonais et les juifs est utilisé constamment, que ça soit, mais y compris par les milieux de la recherche, mmh. hein, les relations judéo-polonaises. Moi, ce terme pose évidemment mmh. énormément de problèmes, surtout en travaillant en France. Je ne pense pas qu'on aurait eu l'idée de parler des relations judéo-françaises. En tout cas, j'en ai jamais vu dans la période contemporaine, mmh. ou de parler des Français et des Juifs. Donc il y a effectivement cette séparation mmh. qui se... En tout cas, pas dans un discours officiellement promu dans l'espace public. Donc il y a effectivement cette séparation. Et le fait d'isoler la Shoah en dehors de l'histoire polonaise, de fait, participe de cette dépolonisation des Juifs. Mmh. Alors, il faut effectivement...
Cette déjudaïsation de la Pologne...
Et déjudaïsation, effectivement.
Mais dans le récit, je veux dire, dans l'histoire.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux processus corrélatifs qui sont liés à ça, symétriques, tout à fait, qui font qu'on va déjudaïser, par exemple, on va dire l'identité des camps de concentration et d'extermination, puisque quand on lit les légendes... Alors là, on peut rentrer un peu dans les manuels. Lorsqu'on lit des légendes, des photographies, par exemple, faites à Auschwitz ou à Birkenau, c'est assez, encore une fois, surprenant. C'est-à-dire, tous les manuels n'adoptent pas cette vision-là. Néanmoins, il y en a un grand nombre qui énumèrent les victimes polonaises, politiques, le clergé, etc., et ne mentionne même pas les victimes juives, par exemple, du camp d'Auschwitz, ce qui, effectivement, est assez problématique.
Bon, et malheureusement, on est obligé de s'interrompre là. Vous menez en ce moment une étude, vous rencontrez, vous observez des élèves, vous en avez parlé, les professeurs... qui pourra compléter ce travail que vous avez fait sur les manuels, et ça sera un plaisir que vous reveniez pour en parler une fois cette observation, vous l'aurez bouclée. Hein, je vous remercie énormément, Eva Tartakovsky. Je rappelle que ce texte sur l'enseignement de la Shoah en Pologne aujourd'hui dans les programmes, c'est-à-dire au lycée, au collège, est paru dans l'ouvrage collectif « Les Polonais et la Shoah », paru aux éditions du CNRS. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.